Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
Une liberté de penser.
Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
Une force internationale.
Et même, on va plus loin.
Luc, la liberté.
Écoute, Luc, tu me disais la dernière fois qu'on a parlé là, du procès de Donald Trump, tu me disais que Donald Trump s'en était pris au juge et que s'il était un citoyen ordinaire, il ferait probablement de la prison parce qu'on s'attaque pas comme ça à un juge. Là, il a attaqué la crédibilité des jurés.
La crédibilité. Et il a même tenté, c'est ce que le juge lui a passé comme message, c'est ce qu'il a passé à Todd Blanche, l'avocat principal dans cette cause-là qui défend M. Trump, il lui a carrément dit que son client avait tenté d'intimider un témoin. Donc, M. Trump s'est avancé. Il n'est pas resté à sa place, comme on imagine une scène classique dans un tribunal. Il est allé dans une zone, finalement, où habituellement on ne retrouve que le juge et les avocats. Et il a regardé, puis il aurait émis des propos. À l'endroit, c'est une femme qui le visait. Donc, on a dit, écoutez, des exemples comme ça où M. Trump a tenté a défié ce qu'on appelle le gag order, ou le fameux bâillon. Ça, c'était peut-être l'incident le plus spectaculaire, le plus controversé, mais on en a relevé 10. Et c'est comme ça qu'on a démarré la journée hier, donc c'était pas le procès lui-même, mais bien quel sort réserve-t-on à Donald Trump pour avoir fait ça?
Ben oui.
Et le juge Merchant, celui qui est à la tête du procès, il est loin d'être bête. Il sait très bien qu'on marche sur une terre inconnue, c'est-à-dire accuser un ancien président au criminel. En plus, cet ancien président, c'est un candidat pour la campagne 2024. Pendant qu'il est devant le tribunal, il ne fait pas campagne. Comment gère-t-on ça, les communications publiques, donc le message qu'on envoie aux électeurs et bien entendu le respect des règles imposées dans un tribunal. Et c'est toujours important de le rappeler, contrairement à ce que Donald Trump dit, on ne lèse pas sa liberté d'expression. N'importe quel Américain qui se retrouverait dans le tribunal se serait vu imposer mêmes conditions que Donald Trump. Donc, j'écoutais encore Fox News hier et c'est particulièrement drôle de les entendre larmoyer maintenant sur le fait que non seulement M. Trump ne peut pas parler, il paraît que M. Trump ne peut pas parler. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois hier et j'ai lu plein de messages sur Truth Social. Donc, je me dis, je sais pas où les gars prennent l'information. Mais l'autre chose, et ça vraiment, ça m'a fait rigoler, c'est de dire, mais peut-on réserver ce sort-là à un homme qui a presque 80? C'est le même réseau qui s'amuse à, puis souvent avec raison, honnêtement, mais à dénigrer Joe Biden ou à dire il a vieilli. Là, c'est les mêmes qui disent il est trop vieux, M. Trump, pour s'asseoir là pendant 8 heures. Ce qui pour toi et moi est même pas une journée de travail complète.
Luc, écoute, je suis curieux. Est-ce que ce procès-là, il est diffusé? Est-ce qu'il se déroule devant caméra dans son entièreté ou pas?
Non. Non, voilà. C'est ce qu'on a comme information. C'est aussi là-dessus que joue la campagne Trump. C'est que ce sont des journalistes. Il y a un nombre restreint de journalistes qui ont accès au tribunal et c'est eux qui relaient. Et si on est pour NBC ou Fox ou CNN, c'est eux qui, de l'intérieur du tribunal, relaient souvent presque en temps réel ce qui se déroule. Les interventions des avocats, la réaction du juge, les mimiques de Donald Trump, le petit somme qui va piquer à l'occasion. Donc, c'est comme ça qu'on apprend ce qui se déroule à l'intérieur de la salle. Et c'est là où parfois aussi on tombe dans l'excès, honnêtement. Je me suis amusé hier, j'ai pas tant de temps à perdre que ça, mais je me suis amusé à faire le tour des canaux pour voir comment on relayait ça. Écoute, dans un procès, il se passe pas de... Mais imaginons une journée de 8 heures. C'est pas 8 heures d'action continue. Là. C'est pas un montage d'un film de 2 heures où on a que la plaidoirie qui change tout. Je trouve qu'on en fait vraiment un spectacle. Disons que si Donald Trump nourrit la bête est bien satisfaite de ça puis elle le récompense généreusement.
Écoute, tu m'as envoyé les sujets dont tu veux discuter et il y en a un qui me jette par terre. Au Tennessee, les profs pourront désormais être armés. Des profs armés.
Ouais. C'est un thème que ben, tu vois, comme cet après-midi, par exemple, c'est un thème que je vais aborder avec mes étudiants. Ils sont en éducation, on est en éducation supérieure, là, et je leur donne des exemples comme ceux-là pour dire, à l'occasion, c'est un choc culturel, étudier l'histoire américaine. Et je leur disais, avant cette décision-là, mon exemple était souvent l'Université du Texas. Je leur disais, si je suis prof à l'Université du Texas, le seul moment où je peux vous demander de déposer votre arme, c'est quand vous venez me voir dans mon bureau. J'ai le droit, dans mon bureau, de vous demander de ne pas porter une arme. À vous de la laisser quelque part en sécurité, on l'espère. Mais sinon, on rapporte même parfois des témoignages d'étudiants qui disent « ça nous fait étrange de débattre, puis de débattre de sujets, on le sait, toi et moi, à quel point c'est polarisé, de débattre à côté de quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, mais qui a une arme à feu. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas dégénéré. Mais je disais aux étudiants, imaginez un détecteur de métal à l'entrée du collège et que je vous parle alors que vous avez sur vous une arme. Maintenant, à plusieurs reprises, quand on a parlé des services de police ou des services d'intervention, quand il y a des tueries dans des écoles, ça fait très longtemps que ça circule. On ne l'a pas imposé à l'échelle du pays, mais il y a beaucoup d'endroits où on a dit, les premiers intervenants en cas d'attaque, le temps que les services d'urgence arrivent ou que les forces policières se présentent, les premiers à pouvoir défendre les étudiants, ce sont les profs. Et parfois, on le fait sur une base bénévole et on dit ou on offre à certains profs, on va avoir une arme qui va être en sécurité dans votre local ou à un endroit central dans l'école et on vous offre une formation pour être en mesure. C'est pas tous les profs qui vont arriver en classe avec une arme, mais on leur propose justement de porter une arme. D'un autre côté, une des ventes de matériel dont on parle peu, c'est tout le matériel qu'on vend aux étudiants et qui se trouve à être pare-balles. Par exemple, tu peux acheter pour ton enfant un sac à dos, mais qui le protégerait s'il était visé pour le haut du corps. Les matelas dans les salles d'entraînement des gymnases, là où on fait nos pirouettes et nos acrobaties, il s'agit en cas d'attaque que tu les soulèves et que tu les places devant toi pour te protéger. On est, quand on compare avec notre éducation, et il y a eu des gestes de violence au Québec, et on s'en est inquiété, et je pense qu'on va être proactif, fort heureusement, mais on est à une autre échelle, on est dans un autre univers quand on évoque cette réalité.
Luc, justement, je louais une maison de campagne pendant plusieurs années à Saint-Armand. Tu sais, Saint-Armand, c'est par là où passent les immigrants illégaux là, depuis quelques mois. Saint-Armand, là, j'allais dans le bois derrière la maison que je louais et il y avait une stèle par terre et c'était écrit « Par là, les États-Unis, par ici, le Canada ». J'étais collé sur la frontière. Ouais. Je prenais mon auto pour aller, bien sûr, faire le plein au Vermont, l'autre bord de la frontière. Et écoute, à une demi-heure de chez moi, il y avait des armuriers, puis même à la station d'essence où j'allais, on vendait des guns, des armes à feu, tout ça. Je me disais, c'est fou. Une demi-heure, puis c'est une autre culture, une autre mentalité. Comment ça se fait que cette... C'est bizarre que cette obsession des armes à feu n'ait pas traversé la frontière. C'est étrange.
Oui, écoute, il y a des partisans, par exemple, de ce type de comportement ou de cette culture au Canada. Il y en a un certain nombre au Québec. Mais c'est resté, somme toute, marginal. C'est resté, il y a personne qui va adhérer à ça. Et pourtant, le Québec est comme le Maine, où j'ai séjourné souvent. Si toi, tu passais par le Vermont, moi, il m'arrive souvent à partir de Québec de passer par le poste frontière de Jackman. Écoute, j'ai l'impression de retourner dans le temps à cet égard-là. Mais pourtant, les Québécois vont chasser au Maine. Puis on est une terre de chasseurs, le Québec également. Mais notre relation aux armes à feu, à la sécurité, puis à la nécessité de protection, elle est complètement différente. Donc, j'ai été élevé avec un père qui était chasseur, je l'accompagnais, j'en ai manipulé, mais jamais j'ai considéré l'arme de la façon dont elle est considérée aux États-Unis. Donc, c'est pas la peur des armes à feu en soi, c'est plutôt la mentalité qui accompagne, le symbole que représente l'arme à feu pour les Américains.
Et ils disent, eux autres, dans leur logique, le problème avec tous les meurtres qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a pas assez d'armes à feu, c'est qu'il y en a pas assez. Il faudrait maintenant que les professeurs soient armés, que les enfants soient armés, quasiment. C'est vraiment très étrange.
Écoute, cette logique-là, Richard, souvent on dit, hein, le problème, c'est la personne qui tient l'arme. Mais si cette personne-là est problématique, pourquoi lui donnez-vous une arme? C'est un argumentaire qui ne tient pas la route non plus.
Exactement. Merci, Luc. La liberté, à demain. Bonne journée. Salut.
Bye, à demain.